Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne.
Ce 30e épisode d'Asialogie est consacré, alors, à l'histoire de la calligraphie,
oui.
Mais je dirais au début de l'histoire de la calligraphie.
Ah, ça veut
Didier.
Dire que ce sera en plusieurs morceaux.
Oui, parce que c'est un très vaste
très, très gros sujet,
la calligraphie. On pourrait en parler pendant des heures et des jours.
Ce qu'on n'a pas, donc première partie ce soir alors.
Voilà, c'est ça, première partie ce soir et je vais me centrer sur la calligraphie chinoise.
Ok.
Le point de départ.
D'accord.
Et puis, je vais aussi vous parler d'un musée extraordinaire qui s'appelle le musée des stèles de Xi'an. Xi'an étant la ville des guerriers de terre cuite qui est au nord de Pékin.
D'accord.
Et toi, bah, Didier, tu vas nous parler, on en avait déjà parlé dans notre saison 1.
Oui.
Mais là, ça, c'est ce mois-ci, c'est l'exposition universelle.
Voilà, on va
à
en dire
Osaka.
Plus. On avait juste voilà. Évoqué la date et le fait que ce sera à Osaka. Mais là, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin.
C'est ce mois-ci.
OK.
L'exposition universelle.
Bon, alors, avant de partir pour l'exposition universelle et de parler de la calligraphie, est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire de l'écriture en général pour commencer, la genèse, quoi? Quelle est la plus ancienne des écritures du monde, s'il te plaît?
Oui, c'est un petit important, oui. de faire le point là-dessus. Donc l'histoire de l'écriture, elle est fascinante, puisqu'elle débute il y a plus de 5000 ans.
D'accord.
En Mésopotamie,
ah.
Avec les Sumériens,
oui.
Qui ont développé l'écriture cunéiforme.
Mm-hmm.
Voilà, alors ça on l'avait peut-être oublié que c'était les Sumériens,
ah, moi,
qui
oui.
avaient la première écriture il y a 5000 ans.
Okay.
Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu l'Égypte, ça nous parle mieux.
En fait, oui, moi je pensais que c'était
avec
ça.
Avec les hiéroglyphes.
D'accord.
Il y a 4000 ans donc.
Oui.
Alors l'évolution vers l'alphabet a commencé vers 1500 avant Jésus-Christ avec les Phéniciens, mmh. et leur alphabet consonantique qui oui. sera repris et adapté au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs qui y ont ajouté des voyelles. Donc là je parle de ce qui se passe chez nous,
ouais, qu'on
puisse comparer.
D'accord.
Voilà, donc 8e siècle avant Jésus-Christ, mmh. les Grecs ont rajouté des voyelles et
oui.
puis les Romains vont adopter l'alphabet grec et vont le transformer un siècle plus tard en alphabet latin,
okay.
base de nombreuses langues modernes quand
ouais,
même, hein, quand
sûr.
On y pense. Mais les langues chinoises, coréennes et japonaises ont un tout autre chemin.
Ah.
Et aujourd'hui, je ne parlerai que de l'écriture chinoise, vieille quand même de 3300 ans.
Tout à fait, pas mal.
Oui, c'est pas mal. Alors à l'origine, il y avait en Chine les os,
oui.
oraculaires, c'était ça vers 1300 avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même
1300 avant, oui.
3300 ans, c'est bien
ça.
Ce que je disais. Alors les premières traces d'écriture chinoise sont retrouvées sur des carapaces de tortue et des os de bovins.
Ah ouais.
Les omoplates, c'était la langue des omoplates.
D'accord.
Et c'est des objets qui servaient pour la divination.
Ok.
Et l'écriture était alors pictographique, chaque caractère représentant un objet ou une idée.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est les débuts de l'écriture okay. chinoise.
Alors du coup...
Avec les pictogrammes.
Corinne, quand est-ce oui. qu'on peut parler vraiment d'écriture alors?
Alors l'écriture chinoise a évolué tranquillement depuis cette époque pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Mmh.
Et c'est sous la dynastie Zhou. Alors, on en avait parlé du
oui.
temps de Confucius, hein,
oui.
entre 1046 et 256 avant Jésus-Christ. Elle avait duré longtemps, cette dynastie.
Mm-hmm.
Et c'est à cette époque-là qu'est apparue la grande écriture sigillaire, le grand sceau,
oui.
et le petit sigillaire, le petit sceau, un peu plus tard, sous la dynastie Qin.
Okay.
Alors, au temps des Zhou, c'est donc les... Oh, pardon.
Il n'y a pas de mal.
C'est l'émergence des premières formes codifiées d'écriture,
mmh.
Notamment sur du bronze, principalement sur des vases
ah,
et
oui.
des objets pour des inscriptions rituelles. Donc mmh. l'écriture était quand même très en lien avec la religion.
Mmh.
Mais les caractères avaient des formes irrégulières et variées selon les régions.
Mmh.
Et les traits étaient complexes avec des rajouts de détails décoratifs. Donc c'était quand même très compliqué de savoir lire et écrire à l'époque. Et c'est là que nous reparlons de l'empereur Qin Shi Huang, hein, plus
ouais.
de 200 ans avant Jésus-Christ. Donc pendant cette dynastie.
D'accord, mais alors si je me souviens bien, parce que j'essaie d'avoir un peu de mémoire, quand même, c'était lui l'empereur qui avait unifié la Chine et les guerriers de Terre Cuite et la Grande Muraille.
C'est ça, c'était le premier empereur de Chine, d'accord. Un vrai tyran mais très éclairé.
Okay.
On se rappelle quand même. Parfois, alors c'est lui qui va imposer une écriture unifiée pour tout l'empire, le style d'écriture petit sceau, plus facile et plus raffiné que l'écriture sigillaire, le grand sceau. Qui était plus compliqué. Alors, ce sera l'écriture officielle de l'Empire Chine pour unifier les styles d'écriture régionaux. Mmh. Hein, vous vous rappelez, il avait aussi unifié tous les systèmes de mesure et de poids.
Oui.
Alors, la forme régulière et arrondie sont les caractéristiques de l'écriture petit sceau. Et chaque caractère est inscrit dans un carré imaginaire, une règle que l'on retrouve dans l'écriture chinoise moderne et sûrement japonaise aussi.
Ouais.
Mais c'était une écriture complexe et difficile à écrire rapidement, bien évidemment.
Mmh.
Alors son usage était principalement officiel et décoratif sur les sceaux impériaux. Et sigillaire, ça vient du mot sceau, faut le savoir.
Okay.
Et on écrivait aussi sur les stèles. Et puis sur les monuments. Voilà, c'était donc un usage quand même très clairement délimité. Alors aujourd'hui, on la retrouve toujours sur les sceaux personnels et les signatures officielles, cette écriture petit sceau.
D'accord.
Et le style petit sceau sera remplacé plus tard par des styles plus pratiques, mais c'est le style de la calligraphie, le style petit sceau. Alors je précise l'écriture,
oui.
C'est S-C-E-A-U.
D'accord.
Voilà.
Ah, ce qui veut dire que d'autres styles d'écriture sont apparus il y a plus de 2000 ans, alors.
Oui, on peut même parler, je dirais, il y a plus de 2000 ans, mais de style moderne. Alors, je ne vais pas m'attarder, parce qu'il y en a eu plusieurs.
D'accord.
Ce serait vraiment très complexe de les décrire à la radio.
Mm-hmm.
Mais pour résumer, pour plus de facilité, l'écriture chinoise petit sceau a servi de base pour des styles plus simples, donc plus rapides. Et il y a eu même un style cursif qui a été créé, très fonctionnel, qui est encore utilisé aujourd'hui. Et c'était devenu nécessaire avec l'extension de la bureaucratie. Il y a eu une bureaucratie très importante, même sous les dynasties anciennes.
Mm-hmm.
Et puis la multiplication des documents. Les Chinois ont inventé les archives. Ils ont des archives qui datent de plus de 3000 ans, dès
d'accord.
que l'écriture a existé, en fait. Ils ont d'abord écrit, les Chinois, sur des tablettes de bois et de bambou.
Oui.
Puis à partir de 110 après Jésus-Christ, sur du papier. Bon, le papier se gardait moins quand même.
C'est ça.
Après, ils ont fait attention, je suppose, à la conservation, parce qu'on a des très vieux papiers écrits.
Okay.
Mais c'était sur des tablettes de bois et de bambou.
Mm-hmm.
Alors, il faut savoir et ne pas oublier que l'écriture chinoise était la seule de cette partie du monde et qu'elle a été utilisée aussi au Vietnam et en Corée. Et puis, beaucoup plus tard, au 7e siècle, après Jésus-Christ, au Japon.
Ah d'accord, aussi.
Elle est venue beaucoup plus tard au Japon.
Mmh.
Mais le Vietnam et la Corée l'ont utilisée pendant très longtemps. Le Vietnam jusqu'au 19e siècle.
Okay.
Et la Corée jusqu'au 15e siècle.
Tout
avec la création du Hangul.
Oui, voilà, ce qu'on nous avait appris il y a quelque temps.
Voilà.
Pour ceux qui suivent l'émission.
Pour ceux qui suivent l'émission.
Okay.
Voilà, alors ce sera donc seulement au 2e siècle après Jésus-Christ, que le style Kaichu deviendra le standard de l'écriture avec ses traits bien définis, carrés droits, distincts, donc facilement lisibles. Et le style Kaichu, c'est celui qui est utilisé aujourd'hui pour les livres imprimés et l'écriture formelle. Et ça dure depuis 1800 ans.
D'accord.
Alors, c'est quand même beau.
Oui, c'est clair. Aujourd'hui, alors en Chine, on écrit donc en petit sceau et en kaichu quand on veut pratiquer la calligraphie. C'est bien ça, alors ?
Oui, c'est un résumé très concentré, mais c'est ça. On utilise toujours le petit sceau et on écrit en kaichu.
Okay.
Voilà. Et je vais faire quand même un rappel en revenant à Mao Tse-tung, qui est à l'origine de la simplification des caractères pour améliorer l'alphabétisation entre 1950 et 1960, ce qui était quand même une très bonne chose.
Mm-hmm.
Et ce qui a facilité depuis l'apprentissage de l'écriture des caractères. Et avec, et ça j'insiste aussi là-dessus, la romanisation de la langue chinoise, le pinyin, ça permet d'écrire en caractère avec un clavier d'ordinateur.
Mmh, je me souviens
QWERTY,
de ça.
Un clavier QWERTY.
D'accord.
Mais là, on s'éloigne de la calligraphie un peu. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que les Chinois écrivent en chinois sur le papier au travers d'un clavier QWERTY.
D'accord.
C'est quand même magique. Avec le pinyin, il tape en fait en écriture romane le chinois romanisé. Et par exemple, pour dire bonjour, ni hao, ils vont écrire ni hao, N-I-H-A-O.
Ah oui.
Et ça va écrire les deux caractères chinois.
Ok.
Ni hao.
D'accord, j'avais pas conscience de ça, ok.
C'est génial, je trouve.
C'est rigolo, c'est
Alors,
étonnant.
Bon, on va y revenir après. On va aller visiter le temple des stèles, vous allez tout comprendre. Je vous propose une petite pause musicale. Didier, qu'est-ce que tu nous as préparé? Un truc sympa, j'espère.
Oui, un truc sympa dont je ne vous donnerai pas le titre, car je ne sais pas le lire, encore une fois. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier.
深情吻住了你的嘴，却无能停止你的流泪。这一刻我的心和你一起碎，岛屿下风了的长夜，沉睡的人们毫无知觉，突然恨透这个世界，因为要离别。 走过这双线，我陪你走一夜，直到心不在滴血，而你流尽泪水，天空不停地闪着泪，照不亮我心中黑的一切，希望都早已经破灭，我和你。
Voilà, on va retrouver donc Asialogie et Radio Alpa 107.3 pour pouvoir aller vers ce temple des stèles.
Oui.
C'est un musée, mais alors moi j'avoue...
Mais c'est un temple aussi, c'est toujours d'ailleurs.
D'accord, ah, bah, oui. Tu vas tout me dire parce que moi je ne sais pas.
Je vais tout te dire, enfin je vais tout vous dire, chers auditrices et auditeurs. Oui, c'est le musée des stèles de Xi'an, la capitale de l'empereur Qin Shi Huang, donc le fameux...
Oui.
Le fameux premier empereur.
Jusque-là je te suis.
De l'empereur jaune.
Okay.
Donc c'est au nord de Pékin et c'est l'un des musées les plus importants de la culture chinoise, qui est un musée qui abrite la plus grande collection de stèles de pierre et d'inscriptions anciennes. Alors l'histoire de ce musée remonte à plus de 1000 ans, sous la dynastie Tang, qui conservait à Xi'an les stèles de pierre sur lesquelles étaient retranscrits les événements historiques, donc des archives, les doctrines confucéennes et les textes religieux. Tout
D'accord.
ça s'était inscrit sur des stèles.
Ok.
Gravé dans le marbre,
autrement
dit.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça.
C'est ça. Et ces pierres gravées servaient d'archives officielles pour préserver les écrits de manière durable. Ils s'étaient rendu compte que c'était très important de conserver ça pour la postérité.
D'accord.
Alors, sa création officielle, alors ce n'était pas un musée, c'était un endroit, on va dire, a eu lieu en 1087 dans le temple de Confucius de Qian, le fameux temple de la littérature.
Ouais.
Et donc, les stèles ont été regroupées et complétées au fur et à mesure en fonction du nombre de textes qui s'ajoutaient, bien évidemment.
Sûr.
Alors, la collection initiale comprenait notamment la célèbre forêt de stèles, un ensemble de 114 stèles d'écrits confucéens, et aussi de nombreux écrits bouddhiques que l'on pouvait venir étudier. Donc, c'était très important. C'est très important.
Oui.
Parce que, bien sûr, que ces stèles existent toujours.
J'imagine bien.
Alors, la dynastie Qing, entre 1644 et 1912, la dernière dynastie, rappelons-nous, va construire des pavillons supplémentaires, restaurer les anciens et va officialiser en 1804 le centre comme un lieu d'étude et de préservation historique qui deviendra en 1944 le musée des stèles de Xi'an, le centre international de recherche sur l'épigraphie chinoise et la calligraphie. Donc c'est un endroit, on va dire, incontournable. Si on aime la calligraphie, il faut aller là-bas.
J'imagine bien, mais alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce musée? Seulement des stèles, quoi?
Bah, presque, oui, mais on y D'accord. trouve de vrais trésors. Hein, c'est les archives de l'écriture. Ouais. Le musée, c'est toujours le temple de Confucius. Hein, bah, il ouais. a une architecture classique chinoise hein, qu'on reconnaît entre mille. Hein, il est composé de plusieurs pavillons et il abrite aujourd'hui forcément, les archives, ça date plus de 3000 stèles qu'on ah oui, appelle force, donc forcément. La forêt. Et la plus célèbre est la stèle nestorienne et elle date de 781 et témoigne de l'arrivée du christianisme. C'est pour ça qu'elle est très importante et qu'elle est conservée là-bas. L'arrivée du christianisme nestorien en Chine sous la dynastie Tang. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose de très marquant.
Ça doit être étonnant. Oui.
Et les inscriptions sont en chinois et en syriaque, le précurseur de l'arabe.
Ah oui.
Donc des choses quand même qui sont très rares, et ce qui montrait déjà les échanges culturels entre l'Occident et la Chine par la route de la soie. Alors il y a aussi des stèles avec des calligraphies impériales, des œuvres de grands maîtres, selon tous les styles d'écriture, hein, bah, du grand sigillaire, du petit sigillaire, enfin toutes les écritures qu'on peut imaginer, et enfin chinoises bien sûr. Et le musée contient aussi plusieurs statues de Confucius en pierre et en bois, ainsi que des bas-reliefs qui représentent des scènes de sa vie et de ses enseignements, bah, très important, hein, Confucius. Hein.
Oui.
Alors c'est un très bel endroit, hein, dans un très beau jardin. C'est un incontournable à visiter à Xi'an, je dirais à visiter en Chine.
Oui.
Voilà. Alors je termine avec une suggestion de lecture. Hein. C'est un petit livre qui coûte pas cher qu'on trouve partout qui s'appelle Stèle de Victor Segalen. Hein. C'est un sinologue de la fin du 19e, début du 20e. Hein. Un français, j'en parlerai une fois.
Voilà.
Et donc c'est un petit livre qui est bien plus qu'un recueil de poésie. C'est une recherche d'un rapport profond avec l'histoire et la culture chinoise et avec l'idée de la mémoire collective. Voilà. Et à travers ses réflexions, sur ces monuments de pierre, bah, Segalen leur donne une dimension universelle, la quête de sens qui traverse les âges et que l'on retrouve dans toutes les civilisations. C'est beau, vraiment, et ça coûte moins de 5 euros.
Alors, il ne faut pas s'en priver, alors, et bon, découvrir ça.
On fait une petite pause musicale,
ouais, je pense que
en attendant de partir à Osaka.
Voilà, alors je vous laisse découvrir la pause musicale et je vous en dis plus après.
Oui, c'est une pause spéciale, c'est vrai,
voilà,
tu nous en dis plus.
Je pense qu'elle va être étonnante, celle-là.
L'amour, l'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. À l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est par la flamme même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre.
Merci Didier, c'était une chanson de Mouloudji, c'est ça.
Mais alors pourquoi cette chanson?
Oui, pourquoi eh bien, cette chanson Didier?
On va dire que ça va
pourquoi
être un peu l'hymne française pour cette exposition universelle.
Ça va nous représenter cette chanson,
voilà,
Mouloudji sur l'amour.
Exactement.
D'accord. Bon Didier, l'expo universelle, explique-nous un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert.
Alors, à quoi ça sert? Bon, eh bien, l'exposition universelle, je pense que ça parle quand même à tout le monde. C'est pas assez...
Le nom, oui.
C'est un grand événement international qui a pour objectif de présenter les innovations, les avancées technologiques, de faire découvrir les cultures, enfin, les savoir-faire de pays du monde entier. Elle offre un espace, en fait, de dialogue bien précieux par les temps qui courent. C'est vrai. Hein. Elle a lieu tous les 5 ans et dure 6 mois. Elle est organisée par le Bureau international des expositions.
Oui, donc c'est un événement qui est organisé mondialement.
Tout à fait.
Je veux dire par beaucoup de pays, j'imagine.
Oui, c'est ça. La première, en fait, elle a eu lieu en 1851 à Londres. Et cette année, elle a lieu du 13 avril au 13 octobre à Osaka. Chaque pays a son pavillon, vous connaissez un petit peu le principe, pour exposer son patrimoine et ses projets d'avenir. Se rappeler qu'une exposition universelle, ça attire quand même des millions de visiteurs et génère d'importantes retombées économiques pour la ville qui accueille l'expo et les pays exposants. Chaque exposition a un thème central qui reflète un enjeu global. Alors, pour cette expo exposition universelle en 2025, il y en a trois. Donc, le premier... Sauver des vies. Alors, protéger la santé, lutter contre les catastrophes naturelles.
Mais oui, ça s'appuie sur l'actualité toujours.
C'est ça. En deux, inspirer des vies. Donc, imaginer l'éducation et l'emploi à l'heure de l'intelligence artificielle et de la robotique.
Oui.
Et pour finir, donc en trois, connecter les vies, favoriser la compréhension entre les cultures et déployer l'innovation grâce aux technologies de l'information et de la communication.
Oui, c'est des belles idées oui. qui vont être déployées là-bas.
Espérons.
Alors, Didier, parle-nous un petit peu du lieu et de l'organisation. Donc, c'est Osaka, d'accord?
C'est ça. Donc, Osaka 2025, ça va réunir 160 pays pour célébrer donc, le progrès en tenant compte des objectifs de développement durable de l'ONU, car l'enjeu en fait, des expositions universelles est de contribuer à faire émerger des solutions de progrès face aux grands défis mondiaux. Alors, bien nombreux aujourd'hui, on est d'accord. Hein.
Oui.
Alors, l'exposition va s'étaler sur plus de 155 hectares sur l'île de Yumeshima, dans la baie d'Osaka. Le site est construit autour de trois zones. Alors, il y a Green World, Pavilion World et Water World.
D'accord.
Un grand toit rond en bois de 615 mètres de diamètre et 2 km de circonférence. Ça quand même, hein.
Oui.
Ça impose, quoi. Délimite en fait le site de l'exposition et symbolise l'unité dans la diversité. Alors,
oui.
On attend 28 millions de visiteurs. Ça va
oui,
quand même faire
beaucoup.
Un petit peu de monde, quoi.
Oui, mais il y a du monde en Asie.
Des Japonais. Et surtout des Chinois, des Coréens, puis un public des pays asiatiques.
Mais oui, c'est vrai, quand on habite la Corée, c'est facile d'aller au Japon. Hein,
j'ai fait une demande
Chine.
À Radio Alpa pour qu'on soit envoyé, mais pour l'instant, j'ai
t'as
pas eu de retour. J'ai rempli
la
fiche, mais j'ai pas eu de retour. Alors, bon, si quelqu'un nous entend, on ne sait jamais.
Donc la France a un pavillon là-bas, Didier,
oui.
Donc, puisque c'est la chanson L'amour, l'amour.
C'est ça.
Alors décris-nous comment il est ce pavillon.
Alors le pavillon France est installé dans la zone du pavillon World. Son emplacement, il est stratégique, il est face à l'entrée principale. Vous ne pourrez pas le louper.
Ah oui, c'est super ça.
Ce qui va lui donner une visibilité exceptionnelle et la garantie d'un grand nombre de visiteurs. Un beau cadeau des Japonais pour la France.
Bah, c'est vrai. Si on est, on est juste à l'entrée,
c'est ça, c'est pas mal.
On est très visible.
Alors le bâtiment, il est de 5400 m² et il est temporaire. Il a été conçu pour être recyclé entièrement après. Alors sa façade,
c'est une bonne
elle est, ça paraît dans la logique des choses, je trouve même.
Oui.
Sa façade est transparente et très épurée, et évoque une scène de théâtre, et son toit est un beau jardin de 1000 m². Mais alors, ce pavillon a failli ne pas voir le jour.
Oui,
à cause du manque de partenaires industriels, mais heureusement, les fonds ont finalement été collectés et ça a pu voir le jour.
Bah oui, c'est heureux quand même.
Je trouve qu'on y soit, ça aurait été bête.
Oui. Ouais,
c'est ça. Il a été financé par un partenariat entre acteurs publics et privés. Son coût est estimé à 53 millions d'euros, donc 42 millions d'euros de financement public.
Ah oui, le public est très investi.
C'est ça.
Très investi. Alors, on a une idée de qui sont les partenaires, Didier ?
Oui, je vous en dis plus. Il y en a beaucoup. Alors, tous liés au savoir-faire français, en fait. Hein. Les quatre partenaires Gold, les principaux, on va dire, sont LVMH, AXA, Nina Farm et les vins d'Alsace.
Ah oui, ça c'est surprenant, les vins d'Alsace.
Bon, écoute, c'est la première fois qu'un vignoble représente la France à une exposition universelle.
Ah oui, alors ils n'ont sûrement pas choisi les vins d'Alsace par hasard.
Bah, eh oui.
On peut imaginer que les Japonais adorent les
vins
d'Alsace.
Voilà, en effet, le Japon...
Mais ils adorent, ils apprécient énormément vins, les Japonais.
Oui, mais là, en effet, le Japon et l'Alsace ont tissé des liens culturels depuis plus de 160 ans. Et les Japonais connaissent les vins de la région. Et il y a beaucoup d'autres partenaires. Mais malheureusement, les grands industriels français seront peu présents.
Bon. On n'avait peut-être pas grand-chose à présenter
je
non
ne sais
plus.
Pas.
Alors, est-ce qu'il y a un thème pour notre pavillon et quel message on veut transmettre, nous, en tant que pavillon français, là-bas?
Alors, avec la petite musique d'introduction, je vous en ai déjà dit un petit peu. En fait, le message est un lien avec l'humanisme, l'universalisme et l'inclusivité. Le pavillon incarnera le thème, un hymne à l'amour avec trois dimensions. L'amour de soi au travers du bien-être et de la santé. L'amour des autres par la solidarité et l'inclusion sociale, et l'amour de la nature par l'engagement écologique et la durabilité. L'hymne à l'amour comme un fil rouge.
Là, comme un fil rouge qui unit le peuple asiatique, bien que ce soit les Japonais, les Coréens ou les Chinois, ils aiment les fils rouges.
Alors, on a aussi un slogan, Make it iconic, choose France. Alors, voilà, choisir la France. Hein.
Oui, d'accord.
Le pavillon France veut montrer l'étendue de nos savoir-faire, mais aussi nos actions pour la transition énergétique et numérique, pour la valorisation de notre patrimoine et les actions pour améliorer la cohésion de notre société. Il doit servir à donner une envie de France chez tous les visiteurs.
Bah, en tout cas, le concept est sympathique,
ouais,
je dirais. Les idées, la philosophie, et c'est beau quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir dans ce pavillon?
Alors, non seulement voir des expositions,
oui,
mais aussi vivre des expériences. On pourra y découvrir des animations interactives sur les innovations technologiques françaises, des présentations culturelles mettant en avant l'art, la musique et la gastronomie française.
Ah bah oui, quand même.
Sans oublier les espaces de détente et le jardin sur le toit pour refléter le savoir-faire et le savoir-vivre à la française. Ce sera un vrai lieu de rencontre. Je pense que finalement, nombreux vont être là.
Le parcours de visite a été
conçu comme une promenade, en fait, avec trois espaces. L'exposition permanente, donc, de 1000 m², les expositions temporaires de 200 m² pour la présentation de savoir-faire, pour les œuvres d'art, les ateliers, les expériences immersives. À ne pas oublier la principale œuvre d'art qui sera exposée. On la connaît déjà à Asialogic, on en a parlé. C'est la monumentale tapisserie d'Aubusson, d'Ashitaka, soulage sa blessure démoniaque, haute de 5 mètres pour 4,60 mètres de large, inspirée d'une scène du film de...
d'Hayao Miyazaki,
voilà,
Didier,
Princesse Mononoke. On en avait déjà parlé ici.
Oui, tu avais parlé de cette tapisserie
c'est
que tu aimerais bien mettre dans ton salon.
Oui, exactement, mais mon salon est trop petit.
Bon, tu sais qu'Asialogis, il y aura quoi vite? En deux mots, Didier, qu'est-ce qu'il y a?
Une boulangerie, un bistrot.
Ah bah ça manquait, oui.
Bien sûr.
Et un bistrot.
Et alors, ça peut-être que Radio Alpa va pouvoir nous l'offrir, c'est le stylo collector Bic pour l'occasion. Parce que si on n'a pas le voyage, on aura peut-être le stylo.
Oui, j'espère. Bon, c'est fini, Asialogie, les amis. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, Asialogie. Et on se retrouve la semaine prochaine, voilà.
C'est ça. Comme on ne sera pas parti à Osaka, on sera là.
À très vite.
À bientôt.
Salut.